France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La philosophie poussée vers les marges, c'est notre série de cette semaine, la manière dont elle pense la marginalité. Et ce matin, jazz et marijuana, les déviants de Howard Baker. Howard Baker, né en 1928 et mort il y a 2 ans seulement, n'est pas facile à qualifier. Sociologue, oui sans doute, et figure historique de l'école de Chicago, dont les méthodes d'observation et d'immersion dans certains mondes sociaux sont bien moins sages et moins distantes par rapport à leur objet que celles de l'école durkheimienne française. À Chicago, dans les années 1950 et 60, Lloyd Warner demandait à ses étudiants de traîner dans les halls d'hôtels pour repérer, grâce à une observation détaillée des vêtements des personnes, comment les classer sur l'échelle sociale. Ces mêmes étudiants se devaient de lire Le Ghetto, écrit par Louis Wirth en 1928, et toutes les théories que Robert Ezra Park avait élaborées dans l'entre-deux-guerres sur les relations raciales entre les quartiers et la manière dont cycliquement reviennent affrontements et apaisements. Et puis, au cours de Erving Goffman, on apprenait que la vie sociale est un vaste théâtre où l'on change sans cesse de rôle, selon les situations, au fil de la même journée. À Chicago, la sociologie a toujours adoré les audaces théoriques et les concepts provisoires, comme disaient modestement certaines de ses grandes figures. Mais même là, Howard Baker est encore singulier et peu catégorisable. Nous commençons à en parler sur cet extrait d'un morceau de Lenny Tristano, inventeur du free jazz, qui était le professeur de Howard Baker. En effet, Baker était pianiste de jazz et il a fait des musiciens de jazz et des fumeurs de marijuana, parfois les mêmes, son champ de recherche. Son grand livre de 1963, Outsiders, a bousculé les théories de la déviance sociale. Nous allons voir comment. Et après avoir pensé les marges, il consacrera près de 2 décennies à penser l'idée d'art et de valeur esthétique. Baker est inclassable, socio-philosophe, artiste, bâtisseur de concepts, essentiel pour penser les processus de refus des normes sociales ou d'indifférence à celles-ci.
J'ai choisi ces sujets pour convenience, on peut dire ça. Comme musicien, je connais très bien l'usage de marijuana, ce n'est pas un secret. Et j'ai commencé de faire les interviews. C'était très intéressant. J'ai écrit 2 articles. Tout en société est le travail de quelqu'un. Tout. Donc il faut trouver c'est qui fait le travail qui produit cet événement, cet produit, etc. Donc, la déviance est un produit. Comment il arrive? Qui fait quoi de créer la déviance? C'est-à-dire, le phénomène de déviance est le produit collectif de tout qui a contribué à ça. L'homme qui a fait n'importe quoi, mais aussi le flic, mais aussi le juge, mais aussi le membre de l'Assemblée qui a fait la loi, tout ça.
La déviance est un produit collectif. Howard Baker vient de vous le dire ici, en français, c'était en 2015 au micro de Sylvain Bourmeau sur France Culture. Voici à présent comment Howard Baker formule tout cela au chapitre 8 de son livre « Outsiders ».
Pour qu'une norme soit créée, il faut que quelqu'un appelle l'attention du public sur les faits, donne l'impulsion indispensable pour mettre les choses en train et dirige les énergies ainsi mobilisées dans la direction adéquate. Sans ces initiatives destinées à instaurer des normes, la déviance qui consiste à transgresser une norme n'existerait pas. Elle est donc le résultat d'initiatives à ce niveau. Mais la déviance est aussi le produit d'initiative à un autre niveau. Une fois qu'une norme existe, il faut qu'elle soit appliquée à des individus déterminés avant que la catégorie abstraite de déviant que crée cette norme puisse se peupler. Il faut découvrir des délinquants, les identifier, les appréhender et prouver leur culpabilité. Cette tâche incombe ordinairement à des professionnels spécialisés dans l'imposition du respect des normes. Ce sont eux qui, en faisant appliquer des normes préexistantes, créent une catégorie spécifique de déviants, d'étrangers à la collectivité. Il est significatif que la plupart des recherches et des spéculations scientifiques sur la déviance s'intéressent plus aux individus qui transgressent les normes qu'à ceux qui les établissent et les font appliquer. Si nous voulons comprendre pleinement la conduite déviante, nous devons garder l'équilibre entre ces deux directions possibles de nos investigations. Nous devons considérer la déviance et les déviants qui incarnent ce concept abstrait comme un résultat du processus d'interaction entre des individus ou des groupes, les uns en poursuivant la satisfaction de leurs propres intérêts, élaborent et font appliquer les normes sous le coup desquelles tombent les autres, qui, en poursuivant la satisfaction de leurs propres intérêts, ont commis des actes que l'on qualifie de déviants.
Howard Becker, en 1963, nous dit donc que la notion de déviance est socialement construite à partir d'une norme construite que certains soutiennent, reconduisent sans cesse et que d'autres transgressent. Je voudrais savoir, avec mes invités, si vraiment tout cela est nouveau. Bonjour Jean-Michel Chapouly. Vous êtes professeur émérite de sociologie de l'Université Paris 1, grand connaisseur des sociologues de l'école de Chicago, co-traducteur de ce livre de Howard Becker aux éditions Métellier. Et bonjour Stéphane Tonla, chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'Université de Nanterre. Vous menez des enquêtes au long cours dans divers espaces urbains et ruraux, dans un esprit très école de Chicago, qui vous a conduit dans le métro de New York, aussi bien que sur les terres agricoles du Triangle de Gonesse en France. Jean-Michel Chapouly, pourquoi ce que dit Becker là, sur le caractère construit de la norme et de la défiance, est nouveau ? On ne disait pas ces choses avant en sociologie ?
C'est à la fois nouveau et pas tout à fait nouveau. Nouveau parce que ceux qui étudiaient la délinquance, essentiellement la délinquance juvénile, depuis les années 1890, étaient focalisés sur la question des causes de la délinquance. Et ce qu'ils ne s'intéressaient pas au système répressif, ils s'intéressaient aux délinquants et ils cherchaient dans le passé des délinquants, dans leurs caractéristiques, ce qui expliquait leurs actes.
Des caractéristiques, pardonnez-moi, je présume, psychologiques, biologiques peut-être, oui. Mais aussi sociales.
Oui, oui.
Donc c'était de la sociologie quand même. Oui, il y avait des causes sociales, on est d'accord.
Notamment les femmes qui sont au début de ces travaux, notamment Edith Abbott, elles étaient très attentives à la base sociale de ces, parce que elles crevaient les yeux, faut dire.
Dans lesquelles, la famille, l'état économique.
Alors les familles, oui, il y a un ensemble de stéréotypes qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Les familles désunies comme cause, la pauvreté, de manière un peu plus souterraine, le fait que ce n'étaient pas des protestants anglo-saxons, mais par exemple des juifs ou surtout des catholiques, par exemple des Italiens catholiques, tout ça paraissait un gage de mauvaise éducation, d'immoralité future, etc. Donc il y avait un ensemble assez détaillé, en dehors des caractéristiques psychologiques, étudiées par quelqu'un d'ailleurs de manière très systématique. Il y avait donc de nombreuses caractéristiques qui étaient mises en rapport avec la délinquance. Mais ce qui n'était pas regardé, c'était le cadre dans lequel les délinquants existaient, c'est-à-dire notamment la police. Alors, on peut dire que le livre de Becker est à la fois... les analyses de Becker sont nouvelles et ne sont pas nouvelles. Pas nouvelles parce que il ne fait, comme il le dit d'ailleurs très explicitement, que reprendre le schéma d'analyse de la sociologie du travail. Et d'ailleurs, je veux ajouter qu'il ne s'est jamais considéré comme un sociologue de la délinquance ou de la déviance. Il se considérait comme un sociologue du travail et de l'éducation, comme celui qui est considéré comme son maître, professeur à Chicago de 38 à 61, si je ne me trompe, c'est-à-dire Everett Sherrington Hughes, qui a été l'organisateur et l'initiateur au travail ethnographique d'une grande finesse de toute une génération, et notamment de Goffman. Goffman a fini par être, qui refusait toute affiliation, même à l'égard de Lloyd Warner. Il a fini de dire que finalement, si on voulait le classer, il était un ethnographe huguesien. Donc, Everett Hughes a eu une grande importance, en dehors de la qualité de ses essais, qui sont tout à fait remarquables, pour l'instant non disponibles, traduits en français, mais pour l'instant non disponibles, et il a eu une influence sur une génération particulièrement brillante d'étudiants, très différents de des générations d'avant. Ce ne sont plus des protestants anglo-saxons, fils de pasteurs très souvent, comme les premiers étudiants de Chicago et comme Hughes lui-même, mais ce sont des gens qui ont vécu dans des villes, très fortement ce sont des juifs, alors que l'université n'était pas très accueillante à leur égard, qui, une partie, a une expérience variée, notamment, ils ont été militaires. Ils ont été militaires en France ou en Italie, et certains en avaient gardé un point de vue anti-institutionnel. Je me souviens d'avoir Gusfield, qui était un ami proche de Baker, l'avoir entendu dire qu'il était dans ce cas, qu'il avait appris à se méfier de ce que disaient les institutions quand, après sa propre expérience de ministère.
Après sa propre, j'ai pas entendu.
De militaire.
De militaire.
Il mettait beaucoup l'accent là-dessus, mais j'ai entendu d'autres dire la même chose.
Donc il y a vraiment un esprit, oui. Chicago, quoi. École de Chicago.
Oui. Baker était plus jeune que tous ces gens. Il est né en 28. Il a donc pas été militaire en France ou ailleurs. Mais il a été plus rapide dans ses études. Il a une thèse, je crois, en 51 ou quelque chose comme ça. Fait très vite, il avait des talents certainement d'écriture sans particulier. Et donc lui, il a fréquenté, en étant pianiste occasionnel de jazz, et également jeune étudiant, il a fréquenté des milieux variés, qui n'étaient pas les milieux que fréquentaient les générations d'avant, qui étaient des fils de pasteurs, pour qui ça n'était pas toujours facile d'aller dans un bar, qui n'avait quelquefois jamais bu d'alcool, etc. Il faut voir la différence de génération, là.
C'est vrai que dès celle d'avant, vous avez parlé de Hughes, on pourrait évoquer Robert Park. Il y a une curiosité extraordinaire pour des mondes sociaux dans lesquels, classiquement, que ce soit les WASP américains que vous évoquiez ou les académiques en général, on ne traîne pas beaucoup. Évidemment, c'est très les musiciens de jazz et la marijuana, c'est particulièrement transgressif. Mais les reporters de la fin du 19e siècle, très très mal vus par les intellectuels, et par quand c'est quelque chose, puisqu'il a été aussi en Europe, il a vu comment c'était un monde un peu sale, pas qui cherchait un peu les choses graveleuses, c'était très mal vu. Lui, il a été reporter déjà dans la génération d'avant, et d'ailleurs il parlera de la presse d'une manière absolument inédite. Donc il y a quand même un esprit Chicago, quel que soit, si j'ose dire, leur milieu familial d'origine. Vous êtes d'accord?
Oui, absolument. Et Park, je n'ai pas prononcé le nom de Park, mais Park, à mon avis, est très important. C'était, si vous voulez, la filiation est tout à fait directe de Park à Hughes, qui était le meilleur étudiant de Park, et de Hughes à Baker. Et effectivement, Park, il est tout à fait décalé par rapport à une partie de ses étudiants, ou par rapport à Ernest Burgess, son collaborateur, qui lui est un fils de pasteur. Il avait vu autre chose, et notamment, Park connaissait, comme à peu près personne à ce moment-là, le monde des Noirs. Il a été secrétaire d'un leader noir modéré, et je pense que c'est une expérience absolument essentielle, et qui est à la base, on peut dire effectivement, d'une des évolutions possibles de ces sociologues de génération en génération. Mmh. Mais en même temps, il faut dire que en 50, cette perspective et cette manière de faire de la sociologie est relativement dévalorisée.
D'ailleurs, ils seront traduits très tard en français, vous en convenez. Je voudrais juste demander à quelqu'un qui est quand même d'une encore très jeune génération, Stéphane Tonnelin, vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes sociologue. Il est évident que par vos travaux, vous allez chercher des mondes un peu très contestataires, des lieux urbains. Enfin, vous y allez, quoi, comme Park Reporter, comme Becker, qui raconte les concerts de jazz et toute l'ambiance, à l'époque pleine de fumée, mais comme vous savez, dans les clubs de jazz new-yorkais, aujourd'hui, ça sidère toujours à cause des photos qui sont si différentes, mais aujourd'hui, on ne peut plus fumer. Vous avez cet esprit Chicago, qui est finalement encore, disons, un peu rare en France.
Oui, c'est assez rare, mais c'est quand même en train de se développer, peut-être même pas d'ailleurs à cause de l'école de Chicago. Mais juste ce que je voudrais dire, c'est que moi j'ai découvert le livre de Howard Becker quand j'étais étudiant en master, en urbanisme à l'époque, et ça m'a complètement retourné la tête. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean-Michel Chapouly, je découvrais que toutes les perspectives ne se valaient pas. Et du coup, je suis allé faire une thèse à New York avec William Kornblum, qui est une génération juste après Howard Becker, donc un des chercheurs de Chicago qui a écrit une très belle ethnographie en 73 d'un quartier ouvrier qui s'appelle Blue Collar Community. Et donc, avec ce professeur et ses collègues, j'ai appris ce que pourra appeler l'importance de l'empirisme en sociologie et cette idée qu'il fallait aller se colporter un terrain. Et donc, c'est l'ethnographie. Voilà. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important dans la sociologie parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la sociologie était une discipline encore très mineure en sociologie. Mais aujourd'hui, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, n'importe quel département de sociologie qui se respecte doit avoir son ethnographe. C'est-à-dire que il faut quelqu'un quand même qui soit capable d'aller chercher des points de vue peut-être minoritaires ou marginaux.
Et les autres, qu'est-ce qu'ils font ?
Alors, l'essentiel de la sociologie n'est pas dominé par l'ethnographie, loin de là.
Alors, merci de nous éclairer un peu là-dessus.
Elle est dominée par des études essentiellement quantitatives, donc soit à l'aide de statistiques, de questionnaires, comme le recensement, par exemple, hein, et aussi beaucoup par une technique qu'on appelle les entretiens.
Mais ça, ce n'est pas être ethnographe que d'aller faire des entretiens sur le terrain, empiriquement,
alors,
comme disent les sociologues.
Ça dépend, parce qu'il y a plusieurs sortes d'entretiens. Il y a des entretiens qu'on peut aller faire un peu comme des sondages, ici et là. Hein. La frontière, parfois, entre le questionnaire et l'entretien est assez fine. Et puis, il y a des entretiens qu'on peut mener dans le cadre d'une ethnographie, comme l'a fait Becker, lorsqu'il, lui-même, il est inséré dans le milieu des musiciens du jazz et qu'il en profite pour mener des entretiens avec des musiciens ou des fumeurs de marijuana. Dans ce cas-là, l'entretien n'est pas séparé du reste du terrain, vous voyez.
Et dans les études, pardon, mais qualitatives, qui sont quand même une grande part de la sociologie, même en France, vous êtes d'accord que l'importance d'une observation, d'un entretien fin, c'est-à-dire où on essaye de comprendre ce qui se passe dans l'interaction aussi, tout ça, c'est cet apport de l'observation participante, comme on disait à l'époque des premiers, de l'époque dont on parle, hein, Becker, Goffman, tout ça quand même est arrivé en France, on est d'accord.
Oui, c'est arrivé en France, ça a mis un petit peu de temps, hein, je pense, mais aujourd'hui, effectivement, c'est quand même relativement accepté. Cela dit, moi j'enseigne par exemple à l'École des hautes études en sciences sociales les méthodes de terrain en ethnographie, et notamment les terrains alternatifs, ce que j'appelle, hein, donc toutes sortes de marginalités, par exemple. Et les méthodes de ce terrain ne sont finalement pas si enseignées que ça. Et on se retrouve souvent avec des étudiants, par exemple, qui ne savent pas prendre des notes, qui ont du mal à observer.
Regardez. Il existe un livre Exactement. Que vous connaissez très bien, Le Regard sociologique. Oui. Je crois que vous n'êtes pas très loin de cette publication.
Oui.
Mais Jean-Michel Chapouly.
Je serais un peu moins pessimiste que vous, parce que j'ai connu la période antérieure, où c'était la sociologie française, en gros, elle refusait pratiquement le travail ethnographique, et ne savait pas faire du travail ethnographique. J'ai écrit avec mon co-traducteur, d'ailleurs, un article qui était un bilan en 85 sur l'état des travaux ethnographiques en sociologie, et pratiquement, c'était des travaux... il en existait qui étaient purement formels, mais ils n'avaient pas d'intérêt, c'est essentiellement. C'est après ça, et c'est quand même... Mais depuis, ça a quand même largement changé, parce que il y a eu de très bons travaux ethnographiques français, ce qui n'existait donc pas du tout, avant les années 2000. Mais il n'y en avait pas eu pendant, effectivement, de 45 à 85, pratiquement pas eu. Donc, c'est en ce sens, maintenant, je pense que la place me semble assez grande, mais j'ai perdu le contact avec les trucs universitaires, et la place des travaux ethnographiques en sociologie me semble assez grande, et en tout cas, il y en a eu de très bons, et il reste de très bons ethnographes parmi les sociologues en France, je pense par exemple à quelqu'un qui est à Lille, enfin, et ça a été en partie le rôle dont j'ai probablement contribué. J'y ai contribué probablement. À un moment, j'étais responsable d'un DEA que j'avais fondé, Paris 8, EHESS, ENS Fontenay, où j'étais à l'époque, qui a formé un certain nombre de ces ethnographes, mais aussi, beaucoup plus ont été formés par l'ENS Ulm aussi. Je ne suis pas si pessimiste que vous en pensant que la place de ces gens me semble relativement importante. On les trouve publiant dans des revues comme Genèse aussi. Donc c'est venu, bien sûr.
Mais alors là, nous venons aux sources. Alors revenons aux sources. Qu'est-ce que l'observation participante, pour employer cette expression assez convenue en sociologie, de Becker dans le monde du jazz, un monde qu'il connaissait, donc auquel il participait à sa manière, qu'est-ce que cela a apporté par rapport aux théories antérieures sur ce qu'on appelle, on le dit plus souvent en anglais, les social worlds, les mondes sociaux, qui ont un peu un côté un peu fermé. Il y en avait déjà avant, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vraiment il apporte ?
Mais il apporte un point de vue qui est nouveau. C'est-à-dire, en regardant ce qui se passe avec les catégories de la sociologie du travail et l'attention sur le fait que la vie sociale, c'est essentiellement des interactions. Donc, il n'y a pas une personne en jeu, le délinquant, dans ce cas-là, par exemple. Mais il y a tous ceux près ou assez loin, puisqu'il y a en fait, deux niveaux. Il y a ceux qui sont chargés de la répression directement, la police, mais éventuellement des agents de probation, etc. Et il y a aussi, plus loin, ce qu'il appelle les entrepreneurs de morale, c'est lui qui les a dénués comme ça, ceux qui ont constitué ou participé à un mouvement social pour attirer l'attention sur un type de délinquance, même quand personne ne s'en souciait antérieurement.
Donc, est-ce que vous voulez dire qu'il a montré que tous les discours, il faut se replacer dans les années 50-60, il faut que nous fassions un effort aussi là-dessus pour comprendre le contexte, tous les discours moraux sur la drogue, alors quelle qu'elle soit, là on parle de marijuana, et il y en avait d'autres évidemment aussi dans les milieux du jazz, tous les discours, y compris médicaux, qui sont en fait un peu plus tardifs, me semble-t-il, et qui ont déjà un peu remis en question la position morale. Tout ça, même le discours médical un peu plus tardif, il faut les aider, il faut qu'ils sortent de là, tout ça, Becker, si j'ose dire, le relativise, le bouscule, et nous suggère qu'on peut avoir cette vie-là sans être un monstre moral. C'est peut-être pas bon pour la santé, mais on a le droit de vivre comme ça. Est-ce qu'il y a cette envie de légitimer même un minimum ces choix de vie marginale ?
De les légitimer, non, mais d'une certaine indifférence aux normes morales présente, oui, certainement. Ces gens, je pense cette génération, étaient un peu détachés. de ces normes morales antérieures existant aux États-Unis, mais moins dans les villes, et moins dans une ville comme Chicago qu'ailleurs. Donc il y a un certain détachement qui relativise, et certainement Baker avait toujours tendance à relativiser ce qu'il observait. Et donc, essayer de l'observer, si vous voulez, avec des modèles qui étaient les modèles de la sociologie du travail, que certaines activités étaient le travail de quelqu'un ou l'intérêt de quelqu'un. Et donc, ça met une distance par rapport aux catégories morales.
Alors, je vais vous demander dans un instant, Stéphane Tonnelat, ce que vous faites sur vos terrains avec les catégories morales. Mais pour qu'on se remette dans l'ambiance de l'époque des années 60, alors là, c'est un extrait sonore français que vous allez entendre, je voudrais tout de même vous faire entendre un journaliste de France Inter, en avril 1967, Jean Nocher, à propos de la drogue. Écoutez.
En direct avec vous, voici Jean Nocher.
La France était jusqu'à présent un pays où l'on se droguait peu. Mais je vous avais mis en garde contre les dangers d'une certaine mode qui nous venait d'ailleurs de l'étranger, notamment par les beatniks et par certains milieux d'esthètes. Des orgies à la marijuana et aux stupéfiants avaient failli avoir des issues tragiques. Vous rappelez cette jeune fille trouvée agonisante et sauvée de justesse après une surboom consacrée à la drogue. D'urgence, le gouvernement avait pris des mesures pour réglementer la vente de certains médicaments utilisés par ces maniaques. Néanmoins, le fléau risque de s'étendre puisque les policiers de la brigade mondaine viennent de saisir 25 doses de LSD, ce terrible produit qui rend fou, chez un couple éminemment responsable. Elle, 23 ans, brillante étudiante en sociologie, fille d'un haut fonctionnaire, lui, professeur, agrégatif de philosophie, s'il vous plaît. Ils ont avoué cyniquement en déclarant qu'ils désiraient faire des expériences psychiques, probablement matière à un livre dont ils attendent sans doute la gloire littéraire, puisque maintenant on l'accorde volontiers aux anormaux et sadiques de tout genre.
Je vous écoute, Stéphane Tonnelat, parce qu'on n'a pas trop...
C'est un extrait très intéressant, parce qu'il illustre tout à fait la forme d'entrepreneur de morale, hein, dont Jean-Michel Chapouly parlait, qui consiste à imposer un jugement moral avec des étiquettes. Hein, on en a entendu un certain nombre ici, des maniaques, des étrangers, des ethniques, anormaux. Des anormaux. Voilà, donc tous ces jugements, tous ces étiquetages successifs, en fait, ont tendance à renforcer ce que Baker appelle une forme de hiérarchie de la crédibilité. Ici, celle du journaliste qui s'impose comme le sachant dans une arène publique et qui impose des jugements pour savoir qui est fait partie de la collectivité et qui n'en fait pas partie. Hein. C'est le terme « outsider », celui qui est « in », celui qui est « out ». Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ce genre de choses n'a rien de nouveau. Ni ne s'est terminé aujourd'hui, puisqu'on a encore toutes sortes de jugements qui sont énoncés par les politiques ou par d'autres personnes en position hiérarchique dans notre société.
Quand même, là, ça a un peu changé quand même.
Donc, alors, ça a changé, oui et non. C'est-à-dire que les objets ont changé. Peut-être qu'aujourd'hui, on sera moins virulent vis-à-vis de certains usages de drogue, comme la marijuana, mais qu'on utilisera d'autres étiquettes pour d'autres étrangers à la collectivité. Alors, si moi je prends référence à mon travail sur les militants écologistes qui se mobilisent contre l'urbanisation des terres agricoles dans le triangle de Gonesse, dans le nord de Paris, à côté de l'aéroport de Roissy, je m'aperçois dans mon terrain que ces militants, qui sont des personnes relativement raisonnables, d'après ce que je vois, en fait sont qualifiés de parisiens, par exemple, de bobos parisiens par les aménageurs du coin, qui, en leur appliquant cette étiquette, les qualifient ainsi d'étrangers à la collectivité. Sous-entendu, ils ne connaissent rien aux problèmes des banlieues. Et donc, on a des étiquetages comme ça courants dans la politique contemporaine. L'intérêt de l'approche de Becker et de l'ethnographie, c'est d'aller voir de plus près comment ces étiquetages fonctionnent et comment d'abord les aménageurs qui utilisent ces termes, pourquoi ils les utilisent, et aussi comment les militants de l'autre côté qui luttent pour les terres agricoles essayent de s'en défaire. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils contestent cette hiérarchie de la crédibilité.
Est-ce que je peux quand même là-dessus vous interroger? Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, en tout cas qui est à mes yeux très important, tous les points de vue ne se valent pas, et il ne faut certainement pas croire que les sociologues à la Howard Becker, style école de Chicago, étaient relativistes purs et durs, c'est-à-dire n'importe quel point de vue vaut. Mm-hmm. Ce n'est pas vrai à Vivioli. Néanmoins, dans tout ce qu'on vient de dire maintenant, on pourrait le croire, c'est-à-dire on pourrait croire qu'ils ont voulu casser le point de vue moral, ambiant, dominant, c'est pour ça que j'ai employé le mot légitimité tout à l'heure, en légitimant plein de choses subversives, de manière parfaitement relativiste. Comment vous, Stéphane Tonla, vous répondriez à cette objection ?
Alors, c'est vrai qu'il y a parfois une ambiguïté, je trouve, dans le travail de Becker, que certains ont pu qualifier de relativiste. Notamment le fait qu'il ne prendrait pas parti, hein, ni pour les fumeurs de marijuana, ni pour les psychiatres qui les qualifient de déviants, mais se contenterait d'exposer des perspectives opposées. Sans trancher sur le fait de l'une serait plus valide que l'autre. Cela dit, dans un livre ultérieur, Les mondes de l'art, Art World, par exemple, qui analyse la valeur des œuvres artistiques, hein, sur un marché, là, il va un peu plus loin et il nous dit, finalement, c'est en menant le terrain auprès, l'enquête auprès des acteurs de ce monde, qu'on se rend compte qu'il y a ce qu'il appelle des chaînes de coopération ou des faisceaux de coopération qui sont plus ou moins égalitaires, respectueux les uns des autres, basés sur, par exemple, plus ou moins de secret, d'opacité ou au contraire de transparence. Et cela fait que quand on analyse les actions des différents acteurs de ces mondes, la sociologie devient capable de qualifier certaines des perspectives comme plus logiques, par exemple, que d'autres.
Est-ce que je peux poser ma question un peu plus directement et franchement?
Oui.
Vous savez très bien que les sociologues de monde que vous travaillez, par exemple, les militants écologistes, ça, beaucoup de gens pensent que la sociologie est militante.
Oui, alors c'est une des accusations qu'on porte à la sociologie et même qu'on a porté contre Becker. Hein, il a écrit un article qui s'appelle « De quel côté sommes-nous ?» qui explique que les sociologues qu'on accuse de militantisme sont les sociologues qui prennent le parti des plus faibles, des marginaux. Mais les sociologues qui prennent le parti des plus forts, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas des fumeurs de marijuana, des psychiatres ou des juges, ne sont jamais accusés de militantisme, alors que eux adoptent la perspective des dominants.
Mais là, vous me répondez.
Et alors,
un point de vue vaut bien l'autre, alors que justement, ce qu'on voulait dire, c'est que non, ils ne se valent pas. Bon, je vais poser la même question en fait, à Jean-Michel Chapouly. C'est quand même un problème, cette idée que quand on va voir des mondes sociaux, alors déviant est un mot lui-même très, très connoté, donc je préfère dire aux marges, le sociologue est souvent accusé de faire valoir le point de vue de l'intérieur, bon ça c'est très intéressant, mais finalement d'embrasser complètement le point de vue de son objet, de ses sujets qui sont son objet.
Oui, ça me semble en fait inévitable, et le texte auquel Stéphane Tonla venait faire d'allusion, c'est un texte important, effectivement, qui est la fin, qui marque la fin d'une illusion. Ce texte, de quel côté, whose side are we on, il dit, nous prenons parti inévitablement, et je crois qu'il a profondément raison, quelle que soit la recherche. Mais ça n'est pas toujours prendre parti pour... Il y a bien des partis qu'on peut prendre. Ce n'est pas toujours si simple que ça, ce n'est pas toujours les plus faibles. Je pense que le point de vue de Baker, c'est celui-là qui importe, il était profondément démocrate. C'est-à-dire qu'il pensait que différents points de vue, je crois, pouvaient et devaient s'exprimer. Et
donc
que
là, vous me répondez très différemment, je trouve.
Rôle en tant que chercheur était inévitablement d'avoir pris indirectement ou de manière partie, d'avoir certainement rendu compte honnêtement de ce qu'on avait fait, mais que ça n'empêchait pas qu'il y avait essentiellement des biais et que le monde était ainsi fait qu'il y aurait des conflits d'interprétation inévitablement dans ce cas. Et alors sur certains cas, il avait évidemment un avis certainement varié sur les dangers différentiels des drogues. La marijuana n'est pas très dangereux, pour autant que je le sache. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Et donc, ceux qui avaient inventé les campagnes contre la marijuana n'avaient pas sa sympathie, c'était évident. Mais dans d'autres cas, je ne pense pas qu'il aurait été aussi neutre. D'ailleurs, il y a un exemple d'un livre qui a d'ailleurs été publié en français. Il avait recueilli des entretiens en 53, à peu près 53, d'une droguée à l'héroïne, qui est morte 5 ou 6 ans après, qui était en fait une amie de sa femme de l'époque. Et elle raconte de manière très détaillée son expérience, son genre de vie, son expérience, etc. Et c'est lui qui a recueilli cet entretien. Ensuite, ça a été publié ça a été retravaillé par Ellen McGill Hughes. Et ça a été publié sous le titre La confrérie fantastique en français dans une collection que dirigeait Colette Audry, une collection féministe que dirigeait Colette Audry. Mais ça avait été publié en américain, c'était très compliqué, la publication a été très compliquée. Et là, je ne crois pas qu'il aurait considéré que c'était anodin le fait de prendre de l'héroïne, puisque cette femme n'a pas résisté, c'était une candidate écrivaine en fait. Donc, son point de vue était, il me semble, variable selon les sujets.
Et puis, si je crois entendre, et peut-être ça va nous réconcilier sur ce problème. Y a-t-il des points de vue qui valent plus que d'autres, qui est la question que je pose là depuis un petit moment. En fait, ce qu'il voulait, c'était d'écrire. Et de ce point de vue-là, c'est aussi ce que disait Park, le sociologue est d'abord un super reporter. Il raconte des points de vue sans les juger, que des points de vue qu'on ne connaît pas spontanément. C'est ça. Et après, la question du jugement, elle n'est pas première, contrairement à ce que plein de gens pensent, de la socio.
Mais il y a un deuxième niveau, c'est le fait que comprendre par le point de vue, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Stéphane Tonla tout à l'heure, que par le point de vue de ceux qui sont en bas de la hiérarchie, c'est une des idées de recherche de Hughes. Il vaut mieux commencer par le bas de la hiérarchie si on veut comprendre ce qui se passe. Donc il y a l'idée d'une compréhension qui dépasse la compréhension simplement de l'univers qu'on étudie.
The Other Side, c'est le nom d'un autre livre de Baker. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'associer cela à un texte d'un reporter de la fin du 19e siècle qui s'appelait Jacob Riis, How the Other Half Lives, à la fin du 19e, comment l'autre partie de la société vit. Et ça, c'est très bien. Et c'est votre objet sociologique aussi, ou pas vraiment, Stéphane Tonla?
Moi, j'ai toujours travaillé plus ou moins sur les populations qu'on peut qualifier de minoritaires. Hein. Ma thèse, c'était sur les interstices urbains, les habitants des friches. Bref. Mais je voudrais revenir sur la question un peu politique du point de vue. L'idée, c'est que je pense que Baker, avec son travail d'ethnographie et tous les héritiers de l'école de Chicago, essaye de qualifier ces points de vue. C'est pas seulement de dire, voilà, il y a le point de vue des fumeurs de marijuana et le point de vue des psychiatres. C'est de dire, il y a des points de vue qui sont peut-être plus logiques, plus collectifs que d'autres. Voilà. Et il y a des points de vue qui sont peut-être plus empreints de pouvoir ou d'autorité et peut-être moins logiques. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quand même, une dimension un peu prescriptive de la sociologie qui s'appuie sur des valeurs qui sont partagées de façon plus générale dans la société, comme la logique, justement. Voilà. Et donc, il y a une façon de prendre parti.
Oui. Voilà. Alors, l'une des questions qu'on va maintenant évoquer, et qui se pose vraiment à Howard Becker, qui est même centrale dans son livre, c'est comment on atteint cet « other side », ce milieu qui est à la marge. Comment, et c'est un terme de Becker que j'aimerais bien que vous m'expliquiez, on fait carrière. Il y a une carrière, c'est-à-dire un processus qui nous y mène. Et là, je voudrais d'abord vous faire écouter l'extrait d'un documentaire et ensuite un texte de Becker. Et très franchement, je vous le dis tout de suite, j'ai l'impression que Becker dit autre chose que le drogué, si on peut s'exprimer ainsi, du documentaire. Écoutez.
It was done when the bars closed in Chicago, and I was there with Stan Kenton's band, and I was rooming with someone, and he was using heroin.
J'étais en tournée, et c'était après l'heure de fermeture des bars à Chicago. Et mon coloc consommait de l'héroïne. Et je savais que si jamais j'essayais, je serais accro. Et bon, je sais pas, ma femme n'était pas sur la route avec moi, elle était à la maison avec Patricia, notre fille, et j'avais une pulsion sexuelle très forte. Et j'ai dit d'accord. Et je l'ai sniffé. Cette fille est entrée dans la salle de bain et a fermé la porte. Et elle m'a donné tout le matos. Et après que je l'ai sniffé, elle m'a dit « Regarde-toi dans la glace ». Et j'ai vu mes pupilles rétrécir. Et la sensation était tellement belle. Et elle a commencé à me caresser. Et j'ai dit « Putain, si c'est ce que le diable a en stock, alors j'en veux. » Ça a été le début et la fin. Depuis cette minute, j'ai été accro.
C'était donc Art Pepper Notes from a Jazz Survivor, un documentaire de 1982, où on entend une espèce d'addiction immédiate. Écoutez maintenant... Donc un plaisir immédiat, une addiction immédiate. Écoutez maintenant Howard Becker sur le plaisir.
Un individu ne peut commencer puis continuer à utiliser la marijuana pour le plaisir que s'il apprend à définir ses effets comme agréables et si elle devient et demeure un objet que l'individu estime susceptible de lui procurer du plaisir. En résumé, un individu ne pourra utiliser la marijuana pour le plaisir que s'il accomplit un processus d'apprentissage qui le conduit à se représenter la drogue comme un moyen de parvenir à cette fin. Nul ne devient fumeur s'il n'a appris 1. À fumer la drogue d'une manière qui produise réellement des effets, 2. À reconnaître les effets et à les relier à l'usage de la drogue, en d'autres termes à planer, et 3. À prendre plaisir aux sensations perçues. Au cours de ce processus, l'individu élabore une disposition ou une motivation à utiliser la marijuana qui n'était pas et ne pouvait pas être présente quand il a commencé à fumer, car elle implique une conception de la drogue qui ne pouvait naître que du type d'expérience effective qui vient d'être décrit. Ce processus achevé, le fumeur est disposé et apte à utiliser la marijuana pour le plaisir. En bref, il a appris à répondre oui à la question « Est-ce agréable ?» Le cours ultérieur de son usage de la drogue dépend de sa capacité à continuer de répondre par l'affirmative à cette même question, mais aussi de sa capacité à répondre positivement à d'autres questions qui se posent quand il prend conscience des conséquences de la condamnation de sa pratique par la société. Est-ce prudent ? Est-ce moral ? Une fois qu'il a acquis la capacité de prendre plaisir à l'usage de la drogue, il lui sera possible de continuer à fumer, même si les considérations de moralité et de prudence suscitées par les réactions de la société peuvent entrer en jeu et empêcher l'utilisation effective. La pratique ne devient impossible que quand certaines expériences de la drogue provoquant un changement dans la conception qu'en a le fumeur lui font perdre la capacité de prendre plaisir à la sensation de planer.
France Culture, avec philosophie.
Géraldine Mühlmann.
Nous parlons du livre de Howard Becker, Outsider, de 1963, qui parle des milieux du jazz et de la drogue. Et dans l'extrait que nous venons d'entendre, Becker suggère un véritable processus social qui permet peu à peu de ressentir le plaisir de la drogue. Ce n'est pas du tout ce que disait Art Pepper dans le documentaire dont je vous ai fait entendre préalablement un extrait. Jean-Michel Chapouly.
Oui, il me semble qu'il y a probablement différentes... Becker n'a jamais dit que c'était valable pour toutes les drogues. C'est une monographie sur la consommation de la marijuana et pas sur autre chose. Et donc, que ça ne se passe pas de la même manière pour toutes les drogues me semble tout à fait plausible. Et d'ailleurs, moi, la seule drogue que je connais bien, c'est l'alcool. Ça ne se passe pas non plus comme ça. Ça ressemble plus à la marijuana qu'à une entrée brutal, d'après ce que j'ai observé, dans l'alcoolisme. Donc là, c'est aussi un peu les bizarreries de cet ouvrage, si vous voulez. Il est fait de trois morceaux, en fait. L'ancienne maîtrise de Becker, qui a donné les articles sur les musiciens de jazz, qui était un travail de sociologie du travail sur un groupe marginal, comme il y en avait bien d'autres travaux de ce genre faits par les élèves de Yokes. D'autre part, ce qu'a fait Becker sur la marijuana, qui était dans l'Institute of Juvenile Research de Shaw et McKay, personnes de la génération d'avant dont la spécialité était l'étude de la délinquance juvénile. Et c'est dans ce cadre qu'il a fait l'étude sur la marijuana. Et puis il y a un troisième volet, qui est le volet, si on veut, théorique, en partie théorique, qui est l'attention à justement aux entrepreneurs de morale et à une perspective générale sur la drogue. Mais ces trois morceaux sont assez... Leur lien n'est pas très étroit. Les musiciens de jazz, c'est pas vraiment une déviance, oui. C'est un milieu un peu particulier.
Oui, c'est vrai.
Et donc, je pense qu'il faut plutôt le voir comme un moment dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire de la sociologie. C'est le moment où Becker, qui correspond au moment où Becker est rédacteur en chef de la revue Social Problems, et où il ramasse comme ça des articles sur des milieux variés. Dont on est en train, pas vraiment de découvrir l'existence, mais en tout cas auquel on est en train de s'attacher. Certains sont en train de s'attacher, de s'intéresser. Aussi bien les spécialistes de la fraude sur l'échec que les gens qui font courir des lévriers, enfin des milieux dont certains sont délinquants, mais d'autres ne sont même pas délinquants. Ils ne sont pas délinquants, ils sont simplement relativement atypiques.
Et donc, peut-être ce que vous dites là aussi, c'est que c'est aussi ça l'école de Chicago. Ils n'écrivent pas des livres systématiques. Ils écrivent il y a des touches, des couleurs, on y revient, des chapitres. Il n'y a pas un lien systématique. C'est pas une grande construction. Il y a aussi un aspect fragment dans la manière d'écrire. Et c'est pourquoi il peut y avoir des choses contradictoires. Oui. Ce n'est pas un problème. C'est une manière d'écrire en sociologie qui est neuve aussi.
Oui, vous avez raison. Mais c'est aussi une vision de la société américaine qui, à l'époque, est neuve. C'est une des raisons du succès du livre. C'est de voir que ce n'est pas une sorte de vaste système avec une hiérarchie qu'on peut étudier en bloc, mais au contraire, un ensemble de petites cases juxtaposées les unes aux autres, quelquefois d'ailleurs reposant avec des chevauchements, les musiciens de jazz et les fumeurs de marijuana se chevauchent. Et c'est un autre point de vue, et c'est pas le point de vue de la sociologie qui à l'époque est, si on veut, dominante, celle de Columbia et de Harvard, qui étudie par exemple la mobilité sociale, toute la société américaine vue sous l'angle de la mobilité sociale, ou bien la diffusion de tel type de médicaments. Là, ça donne une vision de la société, avec Becker et ceux qui l'entourent, de morceaux juxtaposés qui ne se réunissent pas bien, d'ailleurs, qui ne coexistent pas forcément bien les uns avec les autres. Un monde qui ressemble à celui que la philosophe anglaise Nancy Cartwright écrira en refusant que la science soit capable de donner une vision d'ensemble, comme Montaigne l'a cru, mais plutôt un monde fait de tâches, de secteurs variés, juxtaposés.
Oui. Alors, quand même, on pourrait défendre Becker dans le point que je soulevais, là, Hard Paper, documentaire qui lui est consacré, on entend que l'addiction s'est faite immédiatement un plaisir brutal, qui le plonge immédiatement dans la drogue, alors que Becker dit qu'il faut un processus, y compris d'apprentissage du plaisir. On pourrait répondre... quand même que même dans le documentaire Hard Paper, il faut des conditions sociales. D'ailleurs, il dit « ma femme était partie, il y a un moment particulier, il y a des conditions sociales, y compris pour l'expérience brutale, jouissive, immédiate de la drogue ». Il n'empêche que, je dois vous dire, Stéphane Tonnat, je ne comprends pas très bien le concept de carrière, de processus. Chez Becker, est-ce que vous comprenez et est-ce que ça vous est utile aussi dans vos travaux ?
Alors oui, pour moi, le concept de carrière est très intéressant. Je crois que Becker le reprend, Jean-Michel Chapouly me dira si j'ai tort, à Howard Hughes, hein, dans les carrières professionnelles. Et il utilise ce terme pour en parler des carrières déviantes, du coup. Donc c'est déjà un déplacement. Mais ce qui est intéressant dans ce terme de carrière, c'est qu'il demande d'aller voir sur le terrain comment ça se passe et d'aller voir les étapes. Et une des premières étapes, là, qui n'était pas dans cet extrait, et qui est avant même cette première étape, c'est ce qu'il appelle l'accessibilité. C'est-à-dire que déjà, pour devenir fumeur de marijuana, il faut déjà avoir l'occasion de côtoyer des gens qui fument de la marijuana. Il y a plein de gens qui auraient pu devenir fumeurs de marijuana, mais qui n'ont jamais été exposés à cette substance. Donc c'est la première. La deuxième, quand il dit « il faut apprendre à aimer et ou à sentir les effets », est très intéressante. Dans le livre, il dit « la plupart des gens qui fument pour la première fois » n'osent pas, en fait. Ils ne tirent pas une grosse bouffée ou alors ils n'avalent pas et du coup, ils ne ressentent pas les effets. Et du coup, ils disent « bon, mais ça ne me fait rien, ça ne vaut pas le coup ». Ou alors, il arrive qu'ils fument au contraire trop d'un seul coup et ils ont une expérience d'anxiété, par exemple, qui fait qu'ils pensent que ben, ce n'est pas pour eux et ils arrêtent. Voilà. Et donc là, le Hard Paper, il nous raconte une des possibilités. Et même si c'est une drogue très différente, il nous manque probablement une partie de l'histoire. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans le concept de carrière, avant tout, c'est qu'il nous permet de se défaire de l'idée des prédispositions. C'est-à-dire que les personnes...
génétiques, voilà, psychologiques et tout ça.
Voilà, ça même s'il y a quand même des conditions sociales, on l'a vu. Et ce que ça veut dire, c'est que mises dans des situations différentes, deux personnes exactement identiques pourraient avoir des carrières totalement différentes.
Voilà. Ah ben là, reviennent les prédispositions quand même.
Non, c'est la situation. C'est-à-dire que deux frères ou d'une même famille, par exemple, l'un sera exposé à des fumeurs de marijuana parce que justement ils jouent du jazz, l'autre ne le sera pas et ils auront des carrières déviantes totalement différentes. Voilà, et juste à cause des conditions sociales.
Ça vous intéresse dans votre travail
aussi? Alors oui, c'est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre que les choses ne sont pas prédéterminées, mais que beaucoup d'événements qui déterminent la vie des individus ou des mobilisations sociales, par exemple dans mon cas, sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles dépendent des conditions d'effectuation. Voilà.
With your caress, sweet marijuana, marijuana. Help me in my distress, sweet marijuana, please do. Now you alone can bring my lover back to me. Even though
just a fantasy. And then knock me clear out. Sweet marijuana, please do.
Help me in my distress, sweet marijuana, c'est ce que dit cette chanteuse Julia Lee, que ça l'aide dans sa détresse. La marijuana, c'est le titre même de cette chanson des années 1940. Et c'est là-dessus que je vous remercie, Stéphane Tonla et Jean-Michel Chapouly, pour vos très éclairantes remarques ce matin autour de Howard Becker. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au fait de prendre soin de nous. Aujourd'hui, comment la société prend-elle soin de nous? C'est le pourquoi du comment.
Comment la société prend-elle soin de nous? On croit toujours que les problèmes du monde, de les situations présentes, de l'humanité, comme dit le philosophe Jan Patočka en 1973, sont objectifs. Et de fait, il y a des problèmes extrêmement graves, des problèmes climatiques, des problèmes économiques, des problèmes géopolitiques. Il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre qui repart. Et il faut s'occuper de ces problèmes objectifs du monde. Mais il est clair aussi, comme le montre Jan Patočka ou comme le montrent des philosophes comme Pierre Hadot, que nos problèmes subjectifs, la capacité de notre âme à résister à ces dangers et à ces peurs, la capacité aussi à accéder à un point de vue universel sur ces problèmes qui nous ébranlent, à accéder à la vérité, au raisonnement, à la science, à la justice, cette capacité subjective à affronter les problèmes objectifs est fondamentale. Il faut donc prendre soin de notre âme, prendre soin de notre subjectivité, et la philosophie s'est toujours donné cette tâche, comme aujourd'hui aussi, disons, la psychologie et la psychanalyse. Mais l'un des signes que notre subjectivité est ébranlée et que cet ébranlement aggrave les dangers du monde. Ce n'est pas seulement les pathologies de nos dirigeants, les délires qui nous font penser aux tyrans de l'Antiquité, à Néron ou à Caligula, c'est aussi notre demande subjective. Oui, nous voulons que la société prenne soin de nous. Et quand la société ne prend pas soin de nous, quand nous avons ce sentiment d'une injustice fondamentale, alors toutes les révoltes, tous les dangers sont possibles. Nous avons le sentiment que beaucoup de citoyennes et de citoyens considèrent que les sociétés ne prennent pas assez soin d'elles en ce moment. Et cette absence de soin des autres, finalement, fait que les subjectivités elles-mêmes ne prennent plus soin d'elles-mêmes, ni du monde, et que l'absence du soin, la haine du soin même, est prête aujourd'hui à dévaster le monde. Ce soin dont on pensait le moment arrivé, le moment du soin, le moment du care, les éthiques du care, comme on dit en anglais, semble donc profondément ébranlé. Il y a pourtant cette attente. L'âme est aussi en nous, comme dit Simone Veil, ce qui attend le bien, ce qui attend que les autres prennent soin d'elle autant pour qu'elle soit capable de prendre soin du monde. Il y a donc une sorte de cercle vicieux, car nous savons bien que prendre soin de soi-même, c'est d'abord une tâche individuelle, rationnelle, comme dit la philosophie, et qu'il y a aussi pourtant une attente à l'égard du monde social. Alors qui doit prendre soin de nous? Est-ce nous-mêmes, d'une manière autonome, autarcique, subjective, ou est-ce la société d'une manière bienveillante, mais peut-être aussi oppressante et paternaliste? En réalité, il y a là un cercle qui peut être vicieux, mais qu'il faut rendre vertueux. C'est la tâche aussi que nous assigne le pédopsychiatre et pédiatre Donald Winnicott. Il dit que la société juste est une société qui nous permet de prendre soin de nous-mêmes. Elle permet aux parents de s'occuper de leurs enfants. Elle permet aux enfants d'être autonomes parce qu'elle repose sur des institutions qui prennent soin du monde où chacun pourra prendre soin de lui-même. Oui, il peut y avoir et il doit y avoir un cercle vertueux. La société doit prendre soin de nous, non pas à notre place, mais en construisant notre place, en nous permettant de prendre soin de nous-mêmes, de cette partie peut-être plus fragile que ne pensaient les philosophes antiques et ceux qui les ont repris, comme les grands Pierre Hadot et Jan Patočka, plus fragile mais plus nécessaire encore, oui, avec ce besoin d'un cadre social pour que nous puissions prendre soin de nous et du monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées
en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger. Merci à la technique Minetta Diaora. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.